et hier. Or, le dossier d'accusation, les témoignages, les expertises sont très riches, sont accablants. Incontestablement, se développe au niveau mondial un droit commun de l'inhumanité. Cependant, je demanderai au tribunal, et je le convaincrai de le faire, de rejeter le recours contre l'Union européenne. Je me fonderai à ce propos sur deux grands types d'arguments. D'une part, l'Union européenne n'est pas responsable des violations avérées des droits humains, et d'autre part, que c'est une erreur. Ce serait une erreur de condamner l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas responsable. On peut développer la question sous deux points de vue. D'une part, l'Union européenne n'est pas responsable de violations directes des droits fondamentaux des migrants. D'autre part, on pourrait imaginer lui reprocher un manque de diligence, mais tel n'est pas le cas non plus. Je veux développer ces deux points sans rentrer dans le détail des argumentations juridiques, et on a eu déjà l'occasion de soulever certains doutes quant à l'accusation. Pas de violation directe, on l'aura vu, et notamment aujourd'hui, l'essentiel des accusations ont été portées contre des comportements ou des abstentions d'États membres de l'Union européenne et non pas de l'Union européenne elle-même. Cela était évident aujourd'hui. D'autre part, il n'est pas possible juridiquement, techniquement, je l'ai dit hier, d'imputer à l'Union européenne les comportements d'entités tierces à cette Union, et notamment les États tiers, ou encore les sociétés privées, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient militaires. Alors, la question s'est posée de savoir si l'Union européenne pouvait cependant être au moins complice de telles violations, soit de crimes contre l'humanité, soit de violations des droits humains, ou encore du droit international des réfugiés, du droit international humanitaire, voire des règles de base du droit international de la mer. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au tribunal, et donc je ne m'étendrai pas sur ce point, les éléments constitutifs de la complicité au sens du droit international de la responsabilité des États ne sont pas établis. En l'occurrence, ils sont très sévères, beaucoup plus l'interprétation juridictionnelle qui a été faite du projet d'article de la Commission du droit international sont telles qu'il est exclu qu'on puisse qualifier l'Union européenne de complice de ces autres entités. Alors il reste à vrai dire quelques cas troublants. Et l'Union européenne s'engage, d'une part, à poursuivre ses enquêtes. On a entendu des témoignages sur le détournement des fonds destinés au développement de l'Afrique. Il a été précisé que la Cour des comptes européenne avait institué, avait commencé une enquête. L'Union européenne sera vigilante à ce que cette enquête puisse être menée dans les plus brefs délais. Il a été allégué également que des agents de Frontex ou encore d'Europol auraient commis des abus à certains endroits qu'on dénomme hotspots, et notamment en Grèce. Si tel est le cas, effectivement, des enquêtes doivent être menées, mais vous savez que ces agents relèvent hiérarchiquement de l'autorité de leurs États membres, mais l'Union européenne s'engage effectivement à inviter les États à mener ces enquêtes pour faire donner toute précision sur ces allégations. Quant à l'accusation de collusion entre les intérêts capitalo-industriels, militaro-industriels et l'Union européenne qui ont été avancés, il est clair que certaines sociétés de la surveillance et de la technologie participent à l'élaboration des normes européennes. Mais elles n'en ont pas le monopole et en réalité, tout le monde est appelé à le faire. Et on remarquera que quand la Commission lance des consultations à l'égard de la société civile, ces sociétés répondent et très largement, et qu'un certain nombre d'organisations de la société civile de protection des droits humains répondent très peu à ces appels. Cela est fait en transparence, et donc si effectivement il y a peut-être une démesure dans l'écoute, cela n'est pas dû à une collusion de la Commission européenne, qui a d'ailleurs édicté des règles très particulières concernant le lobbying, et donc je ne crois pas que l'on puisse retenir sa responsabilité à ce titre. Alors, y aurait-il tout de même quelques fautes de négligence à reprocher à l'Union européenne ? Je ne crois pas. Et en effet, l'Union européenne est une institution autonome et a pour fonction notamment d'assurer, par le biais de la Commission européenne, le respect des traités, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Peut-être n'aurait-elle pas fait son travail en la matière. Là encore, je crois qu'on ne peut pas retenir sa responsabilité. Le tribunal n'aura pas manqué de remarquer que la Commission a lancé toute une procédure, toute une politique de lancement de procédures en manquement contre des États membres de l'Union européenne, notamment sur les questions migratoires. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant ? Il faut savoir que les traités européens ne lui donnaient pas compétence quand il s'est agi de communautariser puis de faire rentrer dans le giron du droit de l'Union européenne les questions migratoires, l'ancien troisième pilier du droit de l'Union européenne, la compétence de la Cour de justice avait été exclue. Et ce n'est que progressivement que la Cour de justice a pu avoir compétence en matière migratoire. Et donc la Commission a décidé de lancer des opérations en manquement. On avait eu la menace contre la France à l'époque de la fermeture de l'espace Schengen à la frontière italienne. On a ça avec des pays de l'Est. Alors, pourquoi pas l'Italie et la Grèce qui ont été les États les plus sévèrement remis en cause pendant cette audience ? C'est un choix en partie politique de ne pas accabler plus encore l'Italie et la Grèce. On sait que selon les mécanismes Schengen et Dublin, en particulier, dessinés par les États et pas par l'Union européenne, hein, les accords étaient des accords intergouvernementaux à l'origine, la charge de la gestion des flux migratoires pèse de manière fondamentalement inéquitable sur ces deux pays, puisqu'ils sont à la frontière extérieure de l'Union européenne. Nous connaissons leur situation économique. Va-t-on, en plus de cela, en plus des sacrifices qu'ils endurent et qui n'est pas partagé, malgré le principe de solidarité énoncé à l'article 80 du TFUE, alors qu'ils ne sont pas aidés par les autres États membres, faut-il en rajouter et les condamner parce qu'ils ne prendraient pas convenablement part à la charge de l'afflux des migrants, alors que s'ils ne le peuvent pas, c'est en grande partie parce que les autres États ne sont pas solidaires. Donc pour l'instant, nous avons décidé de nous attaquer à d'autres États qui manifestent de manière beaucoup plus évidente leur absence de volonté totale de coopérer aux politiques migratoires. D'autre part, il faut savoir que si l'on fait une procédure en manquement, la Cour de justice de l'Union européenne ne pourrait condamner un État que pour violation du droit européen ou du droit international. Or, et ça n'est pas la faute de l'Union européenne, le droit international, les droits de l'homme en particulier, puisque c'est essentiellement de lui dont il s'est agi pendant ces deux jours, ce droit international des droits de l'homme prévoit, ou plutôt les États, quand ils ont créé ce droit, ont prévu un certain nombre de clauses de dérogation ou de clauses de limitation, les habilitant, dans un certain nombre de circonstances, à réduire, à limiter la jouissance et l'exercice des droits humains par les individus, notamment pour des raisons de sécurité publique, de maintien de l'ordre public ou de la moralité publique. Les États ont bien pris soin de se garder cette marge de manœuvre, en sens que beaucoup des comportements qui ont été dénoncés comme immoraux aujourd'hui et hier le sont incontestablement, mais ne le sont pas systématiquement illégaux. Et donc, avant de lancer les procédures en manquement et de condamner les États, il faut bien mesurer qu'un certain nombre de ces comportements, et d'ailleurs c'est ce que disait l'accusation, ne sont pas illégaux, et voilà pourquoi l'accusation a dit qu'effectivement il faut aller plus loin que l'accusation en droit, et qu'en fait c'est le droit qui est en procès, j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, il faut bien se rendre compte aussi de la situation de l'Union européenne face à ses États membres. L'Union européenne n'est qu'une émanation des États membres, elle est impuissante face à ceux-ci quand ils ont décidé de mener des politiques incompatibles avec les principes fondamentaux de l'Union. Dès que l'Union essaie d'agir pour contraindre les États, on le voit, ceux-ci sortent du cadre de l'Union, du droit de l'Union européenne, pour se réfugier dans le cadre beaucoup plus confortable pour eux du droit international général, et règlent les grandes crises, non pas sur le fondement du droit de l'Union européenne, mais dans une logique purement intergouvernementale. C'est comme ça que la question de la dette souveraine grecque a été réglée. En violation manifeste du droit de l'Union, mais par accord intergouvernemental, c'est comme ça que la crise des réfugiés de 2015 a été réglée. Absolument pas sur le fondement du droit de l'Union et sous l'impulsion des autorités de l'Union, mais bien par un accord de quelques États membres qui ont notamment, mais ce n'est pas le seul aspect, signé cette fameuse déclaration avec la Turquie. Et s'ils ne s'entendent pas entre eux pour contourner le droit de l'Union européenne, ils la quittent. Et bien sûr, nous avons tous en tête le retrait du Royaume-Uni, et notamment parce qu'ils considéraient, alors même qu'ils n'étaient pas membres de l'espace Schengen, que le droit de l'Union le contraignait trop en matière migratoire. Et j'en viens donc à mon deuxième point. Je crois qu'en définitive, il ne faut pas se tromper de cible. Ce procès ne concerne pas l'Union européenne, et je crois qu'il ne faudrait pas qu'il la concerne. Il ne la concerne pas. Parce qu'il concerne les États et le droit international. C'est un procès qui concerne les États en ce sens qu'ils sont les seuls maîtres des politiques migratoires qui sont à l'origine des drames que l'on a contemplés ces deux derniers jours. Il faut donc prendre garde à ne pas tomber dans le piège tendu par les États consistant à se dégager de leurs responsabilités pour faire endosser précisément le poids des violations des droits humains sur l'Union européenne, qui juridiquement n'est que l'association de ses États membres. Ce serait en outre oublier que l'Union européenne n'a pas de politique migratoire commune. L'Union européenne n'a que des compétences sectorielles, ne mène que quelques politiques communes comme celle de l'asile ou les résidents de longue durée, mais n'a pas les clés d'une politique migratoire entière, et les États ont bien fait en sorte qu'il en soit ainsi dans le traité sur l'Union européenne, précisant bien que l'entrée sur le territoire des États membres, la sortie du territoire des États membres relève de la compétence des États, tout comme les conditions de séjour. Ils se sont gardés cette compétence principale, l'Union européenne ne pouvant intervenir que dans les interstices laissés par ses géniteurs. Et d'ailleurs, on l'a mentionné, la diversité des pratiques étatiques, des politiques étatiques, révèle bien que ce qui est en jeu, ça n'est pas un programme politique commun, ça n'est pas une politique européenne commune, mais une juxtaposition de politiques étatiques qui sont dictées par des considérations économiques, dictées par des intérêts économiques différents, par une histoire migratoires différentes entre les différents États. Mais plus encore qu'un procès contre les États, on l'a senti pendant ces deux jours, il s'agit en réalité ici d'un procès contre un système global, et en particulier contre un des éléments de ce système global, le droit international, le fait qu'il manque de lacunes, il n'assurerait pas la justiciabilité des droits, les droits qu'il garantirait seraient insuffisants. Le problème est que l'Union européenne n'a aucune prise sur ce droit international. Ce droit international n'est pas un produit de la volonté de l'Union européenne, au contraire. Le droit international est un mode de régulation des relations internationales qui a été inventé il y a quelques siècles par les États pour servir leurs propres intérêts. Une fois débarrassés de la tutelle papale et de la tutelle impériale, ils ont décidé ensemble de jouer un nouveau jeu entre États souverains destinés à garantir leur liberté et leurs prérogatives. Ils sont donc les maîtres du droit international. Quelqu'un a parlé, un témoin tout à l'heure, des maîtres du château. Ils sont les maîtres du château au droit international, pas l'Union européenne. L'Union européenne n'est qu'une émanation de ce système. Elle ne peut pas se mouvoir en dehors de ce système. Elle ne peut donc pas le modifier. On ne peut donc pas, en conséquence, lui reprocher de ne pas le faire ou de ne pas l'avoir fait. Il n'appartient en l'état actuel du droit international et du système international dans son ensemble qu'aux États d'améliorer le droit international, d'améliorer la protection des droits humains, et en particulier ceux des migrants. Il ne dépend que d'eux de supprimer toutes les clauses de dérogation, toutes les clauses de limitation qu'il y a dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la Convention interaméricaine des droits de l'homme, dans les pactes internationaux de 1966 qui concernent les droits civils et politiques, ou les droits économiques, sociaux et culturels. En somme, les actions ou les omissions de l'Union européenne ne sont que des symptômes d'un mal plus profond, de politiques d'exclusion dessinées et désirées par les États. Et je ne crois pas que ce soit en vous attaquant à un instrument que vous changerez quoi que ce soit aux réalités dénoncées et à leurs causes profondes. Or, c'est bien ces causes profondes qu'il faut traiter. Et je l'ai dit, je crois que c'est une erreur de diriger le procès contre l'Union européenne et que ce serait une erreur de la condamner, et je finirai par là, en ce sens que dans ce système global inhumain, dans ce droit commun de l'inhumanité, l'Union européenne, et je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, n'est pas la moins vertueuse, si je n'utiliserai pas l'expression sur laquelle elle est la plus vertueuse, de peur de faire froncer les sourcils. En effet, je l'ai dit, l'Union européenne n'est qu'un instrument des États membres, comme toute organisation internationale, et elle n'est que cela, juridiquement. Elle ne peut, et cela qu'à la marge, canaliser ses politiques étatiques. Or, c'est ce qu'elle s'évertue à faire, et c'est ce qu'elle réussit à faire, dans une certaine mesure, bien sûr. Si vous regardez l'histoire de la construction du droit européen des migrations, vous apercevrez qu'à chaque fois que l'on a intégré dans le giron de l'Union européenne ce qui relevait avant des politiques intergouvernementales, l'Union s'est toujours attachée, cela concerne notamment les instruments d'externalisation, l'Union européenne s'est toujours attachée à conditionner cette intégration à des clauses, et vous verrez ça dans tous les règlements, dans toutes les directives en la matière, à des clauses d'engagement du respect des droits humains, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, autant de garanties, bien faibles peut-être, mais qui n'étaient pas dans les conventions intergouvernementales qui les précédaient. D'autre part, n'oublions pas que c'est la Cour de justice de l'Union européenne, qu'on appelait à l'époque la Cour de justice des communautés européennes, qui a introduit d'elle-même le respect des droits humains dans le droit communautaire, puis dans le droit de l'UE, alors que le respect des droits humains était étranger au projet politico-économique initial. Elle l'a fait sous la forme de l'emprunt des principes généraux du droit communautaire. Elle s'est en cela très largement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à tel titre qu'elle a eu une sorte de brevet de respectabilité, puisque dans l'arrêt Bosphorus, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il y avait une présomption d'équivalence de la protection du droit de l'Union européenne et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de droits humains. C'est enfin l'Union européenne la seule organisation à avoir un système complet de recours à la fois contre ses propres institutions et contre les États membres et susceptible d'être actionné non seulement par les institutions à l'égard des États membres, mais également par les États membres et enfin par les individus. Pour qui est attentif, et je sais que le tribunal l'est, pour qui est attentif à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, nous voyons qu'elle n'hésite pas à condamner les institutions pour violation des droits fondamentaux, et que même si elle l'a fait après la Cour européenne des droits de l'homme, elle a quand même condamné l'utilisation automatique du règlement Dublin et a condamné les refoulements fondés sur le règlement Dublin à partir du moment où il conduisait à des traitements inhumains et dégradants ou des actes de torture de la part des États membres. De même, n'hésitez pas à condamner les États membres pour violation des droits humains et, depuis que ceux-ci lui en ont donné compétence, à condamner les États. Condamner l'Union européenne, c'est donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est donc risquer d'absoudre les États, de taire, de minimiser, d'euphémiser leurs propres responsabilités et de fragiliser par là même l'Union européenne dans ses tentatives de contrôle des politiques souverainistes et nationalistes qui sont en cours depuis plusieurs années. Je crois que l'Union européenne est l'un des ultimes remparts avec les sociétés, les organisations de la société civile qui sont venues témoigner pendant ces deux jours. L'Union européenne et cette société civile font partie des derniers remparts contre le retour des nationalismes européens qu'on avait cru enterrer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si vous faites sauter ce verrou, l'hubris étatique et nationaliste risque de reprendre ses droits, comme aux plus sombres heures de l'histoire, de l'Europe et du monde, qui ont, ainsi que l'ont proclamé les peuples des Nations Unies à San Francisco en 1945, ont provoqué le fléau de la guerre qui, en l'espace d'une vie humaine, a provoqué par deux fois d'indicibles souffrances. Je vous remercie.